Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 8 avril 2019, en direct de Washington. Eric Manilakiza et Anne Albertson pour commencer les titres.
Commémoration du génocide de 1994 au Rwanda. Le président Paul Kagame vante la force de son peuple. Reportage de notre envoyé spécial Idriss Fall.
C'est un lieu de mémoire qui rend hommage aux victimes du génocide. Et c'est aussi un lieu d'éducation et d'archivage.
Reprise des affrontements en Libye, le chef du gouvernement du Niamey en garde contre la perspective d'une guerre sans gagnant.
Au Sénégal, nouveau gouvernement profondément remanié.
Ça va dans la bonne direction, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans les très grandes démocraties.
Libération en Ouganda d'une touriste américaine et de son chauffeur enlevé mardi par des hommes armés dans le parc national Queen Elizabeth.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Rwanda, un quart de siècle après le génocide de 1994 qui a coûté la vie à au moins 800 000 personnes, le président Paul Kagame a vanté aujourd'hui la force de son peuple sorti de l'abîme pour redevenir une famille plus unie que jamais. Il s'exprimait lors d'une cérémonie au centre de convention de Kigali, emblème de la modernité de la capitale rwandaise et du renouveau du pays en 25 ans.
En début de soirée, une marche du souvenir a mené M. Kagame et des centaines de personnes vers le stade Amahoro, qui veut dire paix en Kinyarwanda, où avait lieu une veillée. Ce stade dans lequel s'étaient réfugiés en 1994 des milliers de Tutsis pour échapper sous la protection de l'ONU aux tueries est souvent le lieu de crises traumatiques appelées Iyahamuka parmi le public bouleversé qui revit le drame. Grand absent de ces cérémonies, le président français Emmanuel Macron, il a annoncé dimanche vouloir faire du 7 avril une journée de commémoration en France, un premier pas selon les associations de rescapés.
En Libye, de violents combats ont opposé hier près de Tripoli les forces du maréchal Khalifa Haftar, qui veut conquérir la capitale, à ses rivaux du gouvernement d'Union nationale GNA. Les belligérants ignorent l'appel de l'ONU à une trêve humanitaire. Jean-Roger Bion.
Face à une escalade militaire faisant craindre une véritable guerre civile, la mission de l'ONU en Libye avait lancé un appel urgent à une trêve de 2 heures dans la banlieue sud de Tripoli pour permettre l'évacuation des blessés et des civils. Mais les deux camps rivaux n'ont pas facilité la situation. Les services de secours libyens ont eux aussi confirmé qu'ils n'avaient pas pu entrer dans les zones d'affrontement. L'offensive lancée jeudi par les forces du maréchal Haftar pour prendre Tripoli et étendre son emprise dans l'Ouest marque une nette dégradation entre les deux entités se disputant le pouvoir. Hier, les combats ont fait rage au sud de la capitale, en particulier à Wadi Rabi et dans le périmètre de l'aéroport international. Le nouveau porte-parole des forces du GNA, le colonel Mohamed Nyounou, a proclamé le début d'une vaste contre-offensive nommée « Volcan de la colère » pour nettoyer toutes les villes libyennes des agresseurs pro-Haftar. L'armée américaine a aussi annoncé le retrait provisoire de ses militaires en Libye à cause des combats. Au moins 21 personnes ont été tuées et 27 autres blessées depuis le début de l'offensive sur Tripoli.
La Russie a bloqué hier l'adoption d'une déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU qui aurait appelé les forces du maréchal libyen Khalifa Haftar à arrêter leur avancée vers Tripoli, ont annoncé des diplomates. La délégation russe avait demandé que cette déclaration formelle du Conseil appelle toutes les forces armées libyennes et pas seulement celles du maréchal Haftar à cesser le combat. Cette proposition russe ayant été rejetée par les États-Unis, la Russie s'est opposée à l'adoption de la déclaration.
Au Nigeria, au moins 3 personnes ont été tuées et plus de 30 blessées dans une double attaque suicide à Maïdougouri, la capitale du nord-est du pays ravagée par l'insurrection de Boko Haram. Deux femmes kamikazes ont déclenché leurs explosifs samedi soir au milieu de la foule dans le quartier Munadalti, en périphérie de la ville. Les habitants se sont rassemblés hier matin pour les funérailles des victimes.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta appelle ses compatriotes à ne pas se tromper d'ennemis face au terrorisme. Déclaration intervenue 2 jours après des manifestations de dizaines de milliers de personnes réclamant son départ et celui des troupes étrangères présentes dans le pays. Des détails avec Timothée Donangmaï.
Qu'on ne se trompe pas d'ennemis, a dit hier le président Ibrahim Boubacar Keïta pendant qu'il recevait à son palais les dirigeants de la Ligue des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali, l'imama. Les deux leaders religieux musulmans influents, l'imam Diko et le shérif de Nioro, qui avaient appelé à manifester, n'étaient pas à cette rencontre. Vendredi, 30 à 50 000 manifestants ont condamné dans les rues de Bamako le massacre du 23 mars de quelques 160 habitants du village Peul d'Ogosagou. Ils ont dénoncé l'incapacité des autorités à empêcher ces massacres et ont réclamé le départ du président Ibeka. Les manifestants ont également scandé des slogans hostiles, notamment aux troupes françaises. Condamnant des déclarations désobligeantes pour les amis en souci du Mali, M. Ibeka a affirmé diriger un pays indépendant et souverain. Il a dénoncé une tentative de monter les forces nationales contre elles-mêmes, évoquant un cheval de Troie et un terrorisme qui a des alliés qu'on ne soupçonne pas. Sans aucune autre précision, il a aussi assuré que nul n'arrivera à subvertir le Mali, à le prendre de l'intérieur.
Des milliers de manifestants ont appelé hier à Khartoum l'armée soudanaise à les soutenir dans leur opposition au président Omar el-Béchir. Réunis pour la deuxième journée de suite devant le complexe abritant le siège de l'armée, le ministère de la Défense et la résidence du président, les manifestants ont scandé « Le Soudan se libère, l'armée se libère » selon des témoins.
En Ouganda, une touriste américaine et son chauffeur, enlevés mardi par des hommes armés dans un parc national ougandais, ont été libérés sains et saufs contre le versement d'une rançon. Le point avec Aloïs Bigirimana.
Rançon payée et gens échangés, a déclaré Mike Walker, un responsable de Wild Frontiers Safaris, l'agence qui a organisé leur safari. Kimberly Endicott et son guide, nommé simplement Jean-Paul, sont de retour sains et saufs, a-t-il ajouté. Sans confirmer le versement d'une rançon, la police a déclaré que les ravisseurs avaient réclamé une rançon de 500 000 dollars pour libérer leurs deux otages. Le porte-parole du gouvernement, Ofono Opondo, a indiqué que Madame Endicott et son guide ont été libérés par les forces de sécurité de l'Ouganda en RDC. Le parc national Queen Elizabeth est l'un des plus connus d'Afrique de l'Est. Il s'étend sur 1978 km² le long de la frontière avec la RDC et plus particulièrement de l'est de son pays, une région instable où pullulent groupes armés et milices.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le ministre américain de la Justice, Bill Barr, est sous pression pour fournir les preuves justifiant ses affirmations que le président Donald Trump était blanchi de toute collusion avec la Russie. Mais le rapport ne livre pas de conclusion définitive sur une potentielle entrave à la justice de la part du président Trump. Depuis, des informations de presse citant des membres anonymes de l'équipe du procureur spécial Robert Mueller affirmaient que M. Barr a ignoré les résumés préparés par l'équipe du procureur spécial, préférant publier son propre texte le 24 mars. Une commission parlementaire a déjà engagé mercredi une procédure contraignante pour obtenir l'intégralité du rapport d'enquête, ce que M. Barr et la Maison-Blanche vont probablement contester.
À deux jours d'élections législatives en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a indiqué vouloir annexer les colonies de Cisjordanie en cas de réélection. Son principal rival, Benny Gantz, a jugé cette prise de position irresponsable. Des détails avec Thomas Kamilindi.
Monsieur Netanyahou a déclaré qu'il appliquera la souveraineté israélienne sans faire de distinction entre les plus grands blocs de colonies et les colonies isolées. Il a aussi prévenu qu'Israël refuserait un futur plan de paix qui demanderait d'évacuer des colonies en Cisjordanie. Le meneur de la coalition centriste bleu-blanc, Benny Gantz, a estimé qu'il est irresponsable de s'exprimer sur un choix stratégique et historique dans le cadre d'une campagne électorale, affirmant qu'il est pour sa part opposé à toute décision unilatérale. Nous ferons tout notre possible pour parvenir à un accord de paix régional et global, tout en restant fidèles à nos principes, a expliqué l'ancien chef d'état-major. Dans la foulée, la Turquie a vigoureusement dénoncé les déclarations de M. Netanyahou. Un haut dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, Saïeb Erekat, a estimé qu'elle n'était pas surprise par les propos de M. Netanyahou. Les colonies installées sur les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967 sont illégales au regard du droit international. Leur annexion par Israël pourrait sonner le glas de la solution dite à deux États, c'est-à-dire la création d'un État palestinien qui coexisterait avec l'État israélien.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco de Morgane Guériec.
Afin de s'intégrer aux marchés mondiaux, la Banque africaine de développement appelle l'Afrique centrale à consolider le commerce intracommunautaire en supprimant les protections. Pour ce faire, elle réitère la mise en œuvre du processus d'intégration régionale qui pourrait faciliter les échanges entre les États membres en favorisant la production et la consommation des biens manufacturés. Pour un meilleur développement du potentiel commercial, la BAD souligne qu'elle nécessite un environnement commercial plus prévisible et plus sûr, tout en précisant que ce dispositif doit être accompagné par un meilleur rapport coût-efficacité grâce à la simplification et à l'harmonisation des procédures de commerce et de transport et des échanges de documentation et d'informations. Au Kenya, la proportion de la population pouvant accéder à des services financiers informels est désormais de 83% contre 75,3% en 2016 et seulement 26,7% en 2006. C'est ce que révèle la Banque centrale du Kenya dans un rapport. Selon le document, ce pourcentage d'accès place le Kenya au troisième rang africain en ce qui concerne l'inclusion financière, derrière les Seychelles et l'Afrique du Sud, qui affichent respectivement des taux de 95 et 90%. L'embellie enregistrée est principalement le résultat de la progression fulgurante de l'usage du mobile money, des initiatives du gouvernement et du développement dans les technologies d'information et de communication, souligne le rapport.
Sans transition, nous ouvrons votre page d'espoir avec Élisée. Bonjour. En football, tu as les résultats des quarts de finale aller de la Coupe de la CAF, n'est-ce pas?
Oui, les Marocains d'Assania Agadi et les Égyptiens du Zamalek se sont neutralisés, score 0 but partout. En revanche, l'autre club marocain, la Renaissance de Berkane, a pris une grosse option sur la qualification en s'imposant 2-0 au Kenya face à Gomaya. Et puis, les deux représentants tunisiens en coalice ont connu des fortunes diverses. À domicile, l'Étoile du Sahel a fait le boulot en disposant des Soudanais d'Al Hilal sur le score de 3-1. De son côté, le club sportif facien s'est incliné 2-1 en Zambie sur le terrain de Nkana.
Quart de finale aller aussi en Ligue des Champions et grosse sensation à Johannesburg. Mamelodi Sundowns et Tri Al Ahli du Caire.
Le club égyptien finaliste sortant a pris une raclée 5-0 face aux Sud-Africains qui ont non seulement survolé la rencontre mais qui sont quasiment qualifiés pour les demi-finales. Belle performance également pour les tenants du titre, Espérance de Tunis vainqueur 3-2 en Algérie contre les CS Constantine. Les hommes de Mouine Chabani ont fait aussi un pas géant vers les demi-finales et reste au passage la seule équipe invaincue dans la compétition.
Et pas de but en revanche dans les deux autres matchs de ces quarts de finale aller.
Oui, en déplacement à Dar es Salaam, le TP Mazembe a assuré l'essentiel 0-0 face à Simba. Pas de vainqueur aussi à Conakry. Oroya et le Wydad de Casablanca se sont quittés sur le même score. Ces résultats sont favorables aux Congolais et aux Marocains qui auront l'avantage de recevoir dans une semaine, même si les Tanzaniens et les Guinéens peuvent toujours garder espoir, puisque un match nul avec but au retour les qualifierait.
Football toujours Élysée, mais chez les dames, on a eu droit ce week-end au premier tour, retour des éliminatoires des Jeux Olympiques 2020.
Et après l'Éthiopie, le Mali aussi s'est qualifié pour le second tour. Après leur victoire 3-1 face au Maroc à l'aller à Bamako, les Maliennes ont arraché hier le match nul de partout à Casablanca. Au deuxième tour, elles affronteront la Côte d'Ivoire qualifiée sur tapis vert suite au forfait de la Sierra Leone. Suite demain des matchs de ce premier tour retour, Mozambique, Malawi, Tchad, Algérie, Congo, Gabon, RDC, Tanzanie et puis Namibie, Botswana. À noter que la Zambie aussi est qualifiée par forfait. Sinon, le Cameroun, le Nigeria, la Guinée équatoriale, le Ghana, le Kenya, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud sont exemptés de ce premier tour. Du basketball, pour finir, la NBA, les résultats des matchs joués la nuit dernière.
Brooklyn s'est qualifié pour les playoffs pour la première fois depuis 2015 après son succès sur le parquet d'Indiana 108-96. C'était hier. La phase finale débute le 13 avril. Les deux dernières places pour les playoffs restent très disputées entre Orlando, Detroit, Charlotte et Miami. Orlando 7e peut se qualifier dès dimanche en cas de succès à Boston. La franchise de Caroline du Nord, propriété du légendaire Michael Jordan, enchaînait une troisième victoire de suite grâce à son meneur Kemba Walker. Les Los Angeles Clippers ont résilié dimanche le contrat de leur ailier camerounais, Luke Mba, à Monte, absent depuis fin octobre en raison d'une blessure au genou gauche. Et c'est tout pour les sports Élysée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
nouveau avec vous, Eric Manilakiza. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Rwanda a commémoré hier le 25e anniversaire du génocide des Tutsis perpétré en 1994. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui avait participé aux opérations de maintien de la paix en 1995, était sur place pour témoigner son soutien, ainsi que les présidents du Tchad, du Niger, de Djibouti et de la République du Congo, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, ont fait le déplacement à Kigali. Un compte-rendu avec notre envoyé spécial, Idriss Fall.
La cérémonie a été sobre et solennelle. Elle a commencé au mémorial du génocide à Kigali. Honoré Gatera, coordinateur de ce mémorial.
À ce mémorial sont enterrés en dignité plus de 250 000 corps de victimes du génocide contre les Tutsis. C'est un lieu de mémoire qui rend hommage aux victimes du génocide, mais c'est aussi un lieu d'éducation et d'archivage.
Hommage aux victimes des peaux de gerbes de fleurs, Paul Kagame allume la flamme qui restera pendant 100 jours illuminée pour symboliser les 100 jours où 1 million de personnes ont été tuées du 7 avril au 17 juillet 1994. C'est une flamme pour toi, une flamme qui ne s'éteindra jamais, une flamme pour la vie. Extrait du discours très attendu du président rwandais Paul Kagame.
In 1994, there was no hope, only darkness, today light.
En 1994, il n'y avait pas d'espoir, seulement les ténèbres. Aujourd'hui, la lumière irradie de cet endroit. Comment cela est arrivé ? Le Rwanda est redevenu une famille. Rien n'aura jamais plus le pouvoir de tourner les Rwandais les uns contre les autres. Cette histoire ne se répétera pas. C'est notre ferme engagement. À ceux, ici ou en dehors, qui pensent que notre pays n'a pas assez vu de désordre et veulent mettre le bazar chez nous, je veux leur dire que nous mettrons encore bien plus le bazar chez eux.
Depuis Kigali, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
Ukwezi kwa mata byarahindutse. Saa kumi umunywanyi wawe umwe wabyeye muri bakisimu niwe bategetse ko jye n'abavandimwe banjye Etoile Foisi Fiona na Raisa dutemerwa ku ngiga y'igiti mu ishyamba. Gakecuru umukobwa wa saa kumi yararize yanga kundekura. Mama Gakecuru aravuga ati wimbabarize umwana murekera urungano. Bimurenze araterura abwira umugabo we ati ese nawe wabyaye urica abana? Etoile bararira ati baratubeshyera ntituri inyenzi papa niwe mututsi. Muri iryo joro mama Gakecuru arabyuka anjana mu ishyamba arankisha.
VOA Afrique à Kigali au Rwanda sur 104.3 24h/24.
Au Sénégal, le président Macky Sall a nommé ses nouveaux ministres composés à 50% de nouvelles têtes. Le gouvernement dirigé par Mahamad Dion compte 32 ministres contre 39 dans le gouvernement précédent. Toutes les 14 régions du Sénégal y sont représentées avec une augmentation de la participation des femmes qui passe de 20% dans le précédent gouvernement à 25%, soit une femme sur 4 ministres. Les détails avec Seydina Abagay, notre correspondant à Dakar.
l'arrimage de toute l'architecture gouvernementale sur les priorités réelles qui ont été fixées par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, pour son quinquennat. Des ministères qui ont été créés autour de l'économie sociale et solidaire.
Il s'agit d'un renouvellement en profondeur, comme l'a révélé le Premier ministre et secrétaire général de la présidence. Mohamed Boun Abdallah John affirme que c'est un gouvernement nouveau, pour un élan nouveau, avec un profond resserrement organique pour plus d'efficacité.
Des initiatives majeures dans le programme du président de la République. Vous entendrez également dans les libellés l'économie numérique qui prend toute sa place dans le projet du président de la République pour bâtir un Sénégal apte à répondre aux défis de la société du futur. Vous entendrez également parler de toute l'articulation que le président a souhaité établir entre l'emploi et la formation professionnelle, qui sont les deux axes, les deux piliers pour bâtir une politique vertueuse et gagnante en matière de promotion de l'emploi des jeunes.
L'une des réformes majeures concerne le département de l'économie et des finances. Maintenant, il y aura un ministère des finances et du budget et un autre ministère chargé de l'économie, du plan et de la coopération. Une bonne chose selon Abdou Khafour Touré, expert spécialisé dans le secteur public.
C'est une réforme qui était attendue par un certain nombre d'initiés. C'est une réflexion qui a été menée en amont, bien avant cela. Et je pense que ça va dans la bonne direction. C'est ce qui se fait aujourd'hui dans les très grandes démocraties, où aujourd'hui, on a un ministre en mode haute qui est un expert qui vient de la Banque africaine de développement. Et je pense que c'est extrêmement important pour s'occuper de l'économie de manière générale, de la politique économique, de la planification et aussi de la coopération.
Reconduit au poste de ministre du Travail et du Dialogue social, Sambassi s'inscrit dans la continuité pour l'apaisement du climat social.
Les problèmes ont été désamorcés parce que les engagements pris ont commencé à être inscrits dans la vie. Il y a un ensemble de mesures et d'engagements qui avaient été pris et évidemment, dans les faits, cela se traduit par des résultats concrets. Et évidemment, disons nos interlocuteurs pour vérifier nettement. Il y a de grandes questions qui sont des questions lourdes que nous allons engager ensemble. Et là également, nous faisons confiance à la sagacité des Sénégalais pour, avec les moyens de tout le monde, trouver évidemment des mesures justes vis-à-vis de chacun.
Au-delà des réformes et de la réorganisation de certains ministères, le président Macky Sall a décidé de supprimer le poste de Premier ministre. Cependant, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah John est reconduit pour porter cette réforme constitutionnelle. Cumulativement, il est nommé ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. C'est d'ailleurs ce poste qu'il va conservé après la suppression du poste de Premier ministre. Au Sénégal, ce n'est pas la première fois que le poste de Premier ministre est supprimé. C'était le cas en 1963 sous Léopold Sédar Senghor et en 1983 sous le président Abdou Diouf. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
La jeunesse africaine face au phénomène de la migration. La question a été au cœur du forum international qui vient de se dérouler à Abidjan, Côte d'Ivoire. Un forum organisé par la Fondation Mo Ibrahim et au cours duquel un hommage a été rendu à l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. À Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Les migrations africaines, une question qui suscite beaucoup de réactions, aussi bien sur le continent qu'ailleurs dans le monde. Des réactions souvent non fondées et qui reposent sur une méconnaissance du phénomène migratoire, selon Abdoulaye Batili, ancien ministre sénégalais et ex-représentant de l'ONU pour l'Afrique centrale.
Autour de la migration, il y a beaucoup d'émotions et de préjugés surtout, d'ordre racial et même raciste. Les Européens émigrent entre eux, les autres continents ont été peuplés par des migrants, venus d'Europe, que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord, et en Afrique également. Il y a beaucoup d'Européens qui sont venus s'installer. Les migrations font partie de la dynamique de l'histoire mondiale.
Abdourahmane Cissé, ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie.
Si vous prenez la population totale de migrants, seulement 14% des migrants viennent d'Afrique. Alors que lorsque vous prenez l'Asie, ils sont aux alentours de 40%. Donc déjà, on se rend compte que les chiffres ne sont pas forcément ce que les gens présentent. En plus de cela, 70% des migrants africains restent en Afrique. Ils ne vont pas forcément à l'étranger. Ils ne vont pas forcément en Europe, aux États-Unis et autres. Ils restent en Afrique. Et notre pays se classe en deuxième position après l'Afrique du Sud. suicide.
Pour le ministre Abdourahmane Cissé, les opportunités en termes d'emploi sont là, aux jeunes de savoir les saisir.
L'Afrique regorge d'opportunités. C'est le désespoir souvent qui envoie des gens à traverser l'Atlantique, la Méditerranée. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à rêver, il faut avoir de l'audace, il faut continuer à travailler, il faut persévérer.
Abdoulaye Batili souhaite que les efforts soient davantage axés sur l'industrialisation.
Notre perspective, c'est qu'il faut améliorer la gouvernance économique, améliorer la gouvernance politique pour saisir toutes les opportunités pour les Africains de rester sur le continent, de créer des entreprises par la transformation de nos matières premières, par un processus d'industrialisation qui donnera du travail aux jeunes.
L'un des temps forts de ce forum a été l'hommage rendu à Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, mort en août 2018. Un grand et digne fils de l'Afrique, selon Pedro Pires, ancien président du Cap-Vert.
C'est un grand homme, quelqu'un qui réfléchissait beaucoup sur l'Afrique, sur le futur de l'Afrique. C'était un Africain préoccupé avec le futur de l'Afrique.
On prit part aux échanges d'Abidjan, l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote, le philanthrope américain Alex Soros, la secrétaire adjointe de l'ONU Amina Mohamed et plusieurs anciens chefs d'État, dont Ellen Johnson Sirleaf du Liberia, George Brahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Congo-Brazzaville, une dizaine de coopératives essaient d'améliorer les techniques agricoles pour produire plus de haricots dans le sud-ouest du pays. Le marché local est rempli du haricot venant des pays voisins. Les précisions de Arsène Séverin.
Une dizaine de coopératives à Ludima, dans la Bouenza, dans le sud-ouest du Congo, s'est lancée dans la production du haricot. Avec l'aide du Programme alimentaire mondial, les résultats sont très encourageants. Priska Maungu a récolté 550 kg de haricots en 2018.
C'est difficile. Il y a beaucoup de travail. Mais auparavant, je ne travaillais pas un hectare. C'est là où il y a le changement. Là, par exemple, il y a 2 hectares. Bon, je vais essayer un peu de regarder. Alors, si je n'arrive pas, je vais mettre aussi le manioc. Après, je mets un peu d'haricot.
Quelques 200 personnes sont impliquées dans cette activité. Elles apprennent de nouvelles techniques pour maximiser les récoltes. Le responsable du secteur agricole, PAM.
Quand le projet est arrivé, il était question que chaque producteur puisse mettre en valeur un demi-hectare par cycle, donc un hectare l'année, donc les 2 cycles. Mais nous avons eu des producteurs qui sont arrivés à faire 2 à 3 hectares en 2 cycles. Donc c'est pour dire qu'il y a eu une avancée considérable. Et vous voyez même sur ce terrain où on est venu, c'est la culture du haricot qui sera mise en place associée au manioc pour avancer avec les techniques qu'ils ont reçues.
Au campement des Ditadi, les producteurs demandent les moyens pour produire plus et satisfaire le marché local.
Et désherber et planter, vraiment, ça demande beaucoup. Non, à la fin, si le produit vraiment sort bien, tu as quand même l'avantage.
Ça, c'est des choses qui pourraient nous donner beaucoup de produits, qui peuvent nous développer même. C'est un campement. Hein. Une fois, ça deviendrait un village, parce que des gens de Dolizy, de Kaï viendraient pour travailler.
À Brazzaville et à Pointe-Noire, le marché est dominé par le haricot venant de l'étranger, du Cameroun principalement. Un commerce très rentable, selon l'analyste économique Alphonse Ndongo.
Le prix d'un sac du haricot au Cameroun, il varie entre 15 000 et 25 000. Le sac de 100 kg est revendu, selon aussi qu'on se situe en basse ou haute saison, entre 100 000 francs. La situation peut encore durer parce que quand moi je vois, la demande est là.
Dans les bassins de production de Fouati, de Bokosongo et de Bouansa, la production de haricots pourrait augmenter si les producteurs gardent la main à l'ouvrage. De retour de Ditadi à Ludima, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de votre oreille attentive à la console Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à Jean-Roger Bion et à toute l'équipe de la rédaction. Eric Manirakiza à Washington vous dit bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.